Malachie chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Voilà le résultat. Vous fatiguez l'Éternel, et puis en quoi là vous nous fatiguez? Voyez? C'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, ou c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien où est le Dieu de la justice? Voyez? Avec tout ce qui se passe dans la société aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais si Dieu était juste, ne nous amusons pas à parler de cette façon-là. Est-ce que vous croyez que Dieu est juste dans toutes ses voies, que toutes ses voies sont sages et parfaites? Alors même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, comprenez bien que ça ne dépend pas de Dieu et que c'est exactement le péché qui attire la colère de Dieu. Ça n'a rien à voir. Et quand on commence à parler de la sorte, on fatigue Dieu. Alors vous allez bien sûr, Dieu, mais Dieu, il se fatigue Dieu? J'ai lu, moi, dans l'Isaïe 40, que Dieu ne se fatigue pas, et qu'on ne peut lasser son intelligence. Bien sûr, mais ça s'appelle un anthropomorphisme. Ça veut dire que Dieu utilise un mot pour que nous comprenions que ce que nous faisons n'est pas du tout bien. Bien sûr que Dieu ne se fatigue pas. Dieu n'est jamais fatigué. Mais c'est, je vous dis, c'est une image de la façon dont Dieu n'apprécie pas la façon dont nous parlons. Alors, est-ce que c'est fatigant pour vous de prier? Est-ce que c'est fatigant pour vous de servir? Est-ce que c'est fatigant pour vous d'apporter une offrande au Seigneur? Et tout ça, Dieu le dit. Une réunion de prière, est-ce que c'est fatigant? Des fois, on me l'a dit, oh, la prière, moi, ça me fatigue. Et vous voyez, on ne se rend pas compte. Si on lisait la parole de Dieu, on ferait attention avant de parler. Ce qui est fatigant, moi, je vais vous le dire, c'est d'être tiède. Parce que quand on est tiède, tout nous coûte. Tout est pénible. Mais quand on est bouillant, rien n'est pénible. Tout est une grâce, tout est une faveur. Les réunions de prière, si Dieu nous demande d'être fervents d'esprit, c'est parce qu'il veut que nous ayons des réunions de prière ferventes. Une réunion, ça doit être remplie de foi, d'espérance, d'amour et non pas d'apitoiement et de plainte. Ça peut arriver qu'on répande son cœur devant Dieu. Mais mes frères et sœurs, quelqu'un qui est fervent d'esprit, il est rempli de foi, d'espérance et d'amour. Vous vous rappelez Paul et Silas, quand ils ont été enchaînés, battus, tapés, en pleine nuit, enfermés et blessés dans la prison avec des fers aux pieds, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques, ils chantaient, ils louaient Dieu, mais ça a plu à Dieu. Vous savez, parce que Dieu, comment il a réagi, ça a dû lui plaire. Est-ce que vous voulez que vos prières plaisent à Dieu? Avoir des prières qui font mouvoir le bras de Dieu. Mes frères et sœurs, si Dieu dit « soyez fervents d'esprit », il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre nos paroles et nos actes. Et quand Dieu dit « oui, vous me fatiguez », ça veut dire que vous avez des propos qui ne vont pas. Vous m'apportez des offrandes et en même temps, vous me critiquez, vous parlez mal. Mes frères et sœurs, que vos cultes personnels, que nos cultes en commun, que nos réunions de prière ne soient pas pour vous une fatigue, une espèce de dédain. « Ah non, moi la prière, je ne vais pas prier. Non, moi ça ne me dit rien. » Mais c'est, on n'a pas à savoir si ça vous dit quelque chose. Dieu n'a pas dit « va prier si ça te dit quelque chose ». C'est ça le dédain. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Est-ce que vous le comprenez, mes frères et sœurs? Et on n'a pas à choisir si la prière, ça nous intéresse. Ah, t'es moi, cette activité. La Bible, c'est pas la carte du restaurant. Vous avez vu, le restaurant, on fait en fonction de la carte. L'église, c'est pas la carte. Le Seigneur a institué des choses, il faut les faire consciencieusement, correctement. Je viens parce que je crois que Dieu peut se manifester. On a chanté que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Vous croyez que Dieu va visiter une église si nous méprisons les choses spirituelles? Non, je viens pas pour moi, premièrement. Je viens pour les autres. C'est vrai ou c'est pas? Bon, je peux prier un peu pour moi quand même. Mais je prie surtout pour les autres. Amen. Et il y a des gens pour qui la prière, non, moi je prie chez moi, je sais comme ça, je n'ai pas besoin de l'église. Mais vous avez vu dans la Bible, chacun pour soi? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que ça soit chacun pour soi? Non, c'est exactement l'inverse. Les vivres, l'église, c'est ensemble, c'est un corps. Et laissez-moi vous dire que si vous oubliez de prier pour vous, mais que vous pensiez surtout aux autres, ça m'étonnerait que Dieu ne s'occupe pas de vous. Croyez-moi, l'église, c'est pas... Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça. Non, moi je prie pour moi, chez moi, ça me convient très bien. Mais ça vous convient à vous, mais ça ne convient pas au Seigneur. Croyez-moi, nous devons prier pour que le corps de Christ soit édifié, pour l'église persécutée. Est-ce que c'est bien de penser aux persécutés? Mais on n'en connaît peut-être aucun. Mais franchement, vous ne croyez pas que c'est bien de se souvenir des prisonniers? Depuis quand n'avez-vous pas prié pour les persécutés? Peut-être que vous n'y pensez jamais. Vous savez, je suis sûr, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le lui rappelle. J'en suis certain. Et si vous êtes dans cette phase où, dans vos moments de prière, il y a beaucoup de fatigue, si vous êtes là, la prière, c'est la montre, vous, 5 minutes, oula, je crois que j'ai prié 2 heures, j'ai prié que 7 minutes, il est certain qu'il y a quelque chose qui vous manque. Je suis persuadé que Dieu veut que la prière soit fervente. Fervente, pleine d'espérance, pleine d'assurance. Je prie, oui, pour le corps de Christ. Je prie pour le corps de Christ en France. Le corps de Christ, je ne parle pas les assemblées de Dieu. Je parle tous les croyants de ce pays qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je prie aujourd'hui et demain. Je prie pour la communauté juive qui est persécutée quelque part. Oui ou non? Vous ne croyez pas que le El Shaddai peut se révéler aux juifs? Oui ou non? Vous croyez que Dieu aime les juifs? Vous croyez que même s'il y a certaines choses qui ne nous conviennent pas, vous croyez que Dieu aime ces gens et qu'au travers de cette épreuve, Dieu peut les amener à crier à Dieu? Peut-être que vous dites, là, voilà, mais moi je suis persuadé qu'un chrétien qui remplit le Saint-Esprit, il s'est peut-être même réveillé la nuit dernière pour prier pour les Juifs. Et je vous assure, mes frères et sœurs, quand Dieu, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Quand Jésus dit, soyez fervents d'esprit, mes frères et sœurs, c'est sérieux. On veut voir la manifestation de la présence de Dieu. Mais il faut prier. On ne rit pas de la politique. Bien sûr qu'il n'y a rien de peut-être d'enthousiasmant, mais est-ce que c'est bien de prier pour les présidentielles? Mais bien sûr. Et on ne se moque pas d'un candidat ou d'un autre. On ne marche pas avec les moqueurs. On ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit que c'est grave de se moquer. Et tout ça, ça fait partie de la légèreté qui s'installe dans les églises. Mes frères et sœurs, on a du respect. On a du respect pour les autorités, on a du respect pour les clochards, mais on a du respect, on honore tout le monde. Un homme qui est fervent d'esprit, il prend au sérieux ces choses. Vraiment, mes frères, c'est important. L'élection présidentielle, c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Car en fonction de certains choix, je peux vous dire que ça peut accélérer la rébellion en France. On ne se rend pas compte, lisez un programme et vous verrez que quand certains candidats autorisent et acceptent telle et telle immoralité, ça ne va pas arranger les choses, croyez-moi. Il ne faut pas rêver. Vous savez dans la Bible ce qui attire la colère de Dieu. Et quand Dieu dit « je cherche un homme qui élève un mur afin que je ne le détruise pas, afin de retarder la colère », bien sûr que la colère viendra. Mais un chrétien, il n'est pas fataliste. Il dit pas « on sait que la colère va venir ». On le sait, les fléaux, les trompettes, les coupes de la colère. Mais mes frères et sœurs, on peut retarder les choses. Ou on peut hâter l'avènement du Seigneur en fonction d'une piété qui est vivante. Et si Dieu dit « soyez fervents d'esprit, soyez enthousiastes, soyez remplis du Saint-Esprit », c'est quelque chose de capital pour votre vie en plus. Parce que comme je l'ai dit dimanche, quelqu'un qui s'exerce à la piété, il entre dans les promesses présentes de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les promesses de Dieu, n'entrent pas dans les promesses de Dieu, parce qu'ils ont une piété de façade. Si mes frères et sœurs, le Seigneur nous met à cœur ce soir de nous rappeler qu'il est apparu Jésus pour détruire les œuvres du diable, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que les œuvres du diable soient détruites. Alors Seigneur, apprends-moi à combattre le bon combat de la foi. Et je m'adresse une fois encore à ceux qui parmi vous ne sont pas sérieux avec leur culte personnel. Est-ce que vous êtes sérieux avec votre culte personnel ou c'est une affaire qui est bâclée en 5 ou 10 minutes? Mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous combattions le bon combat de la foi. Le Seigneur, il n'a pas fini. Vous avez vu dimanche, quand quelqu'un se réveille, il voit les choses de Dieu, il voit qu'il y a des réserves d'huile en abondance, et quand Dieu commence à amener des gens à combattre, non pas par la force, par la puissance, mais par l'esprit, Dieu est catégorique, il aplanira les montagnes. Voulons-nous voir ces choses dans l'Église? Hier, j'écoutais, à ma voiture, j'écoutais une prédication de Robert Menpio qui parlait justement de la foi. Et il disait que la foi, c'est une foi d'obéissance. Une foi qui plaît à Dieu, c'est une foi qui obéit à Dieu. Ce soir, vous devriez savoir si votre foi est une foi qui plaît à Dieu. Est-ce que ce que vous entendez vous pousse à obéir à Dieu, ou est-ce que juste ça vous encourage un petit peu, mais ça ne changera rien du tout? La foi, c'est une foi d'obéissance. Il dit également que c'est une foi d'assurance, une foi de certitude. Quelqu'un qui obéit à Dieu, il a de l'assurance, il a de la certitude que le Seigneur l'honorera. C'est une foi de confiance et bien sûr c'est une foi fidèle. Mais je voudrais que nous retenions juste cette parole, une foi d'obéissance. Car ça fait une dizaine de jours que je suis en train d'être continuellement arrêté par ce verset, que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance aussi coupable que l'idolâtrie. Est-ce que vous entendez? Et ce sont des choses qui devraient nous pousser à réfléchir. Est-ce que vous vous rendez compte que la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie? Vous verriez un chrétien prosterné devant une statue, à genoux, en train de prier une idole. Qu'est-ce que vous diriez? Oui, oui, et c'est gentil. Notre sœur dit qu'il n'a pas tout compris. Oui, ça c'est sûr, il n'a pas tout compris. Mais vous diriez, c'est quand même inquiétant. C'est grave de se prosterner devant une idole. Eh bien, voyez, quand Dieu nous parle clairement, et que l'on résiste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande, c'est exactement la même chose que si nous nous prosternions devant une idole. La vie avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas assister à une réunion, comme ce soir. La vie avec Dieu, c'est pas que de l'enseignement, de la théologie. Ce n'est pas des programmes et de l'organisation. La vie avec Dieu, c'est un baptême de sa présence. Je suis dans sa présence. Est-ce que vous soupirez à être dans la présence de Dieu? Mais c'est une affaire de chaque seconde, de chaque instant. C'est une affaire de cœur. Mon cœur, il bat pour Dieu. Vous savez qu'un des signes de la fin des temps, ça sera l'ingratitude. Les hommes seront ingrats. Ingrats. Ils ne savent pas dire merci. Combien d'enfants sont ingrats avec leurs parents? Jamais merci. Pourquoi faire merci? Mais c'est normal. Il n'y a pas que ça. Les hommes seront insensibles. Il parle des chrétiens, attention. Hein, puisqu'il dit, il dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Donc, il parle bien des chrétiens. Les païens, ils n'ont pas l'apparence de la piété. Ouais. L'égoïsme, je pense qu'à moi. Oui, c'est ça, chacun pour soi. Je prie pour toi, moi je prie pour moi, c'est bon. Ouais. Et vous croyez que c'est comme ça que Dieu va faire éclater sa gloire dans l'Église? Dieu fera éclater sa gloire si véritablement nous nous ressaisissons et que nous disons, mais c'est vrai. Je veux être fervent d'esprit, parce que Dieu ne regarde pas qu'aux cantiques. Vous croyez que nos cantiques l'impressionnent au Seigneur? Dieu regarde au cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et que nous ayons la joie d'avoir des paroles qui sont agréables à Dieu. Que Dieu ne vous dise pas, ne nous dise pas, tu me fatigues. Je préférerais que Dieu nous dise, vos paroles me sont agréables. Oui, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous diriez si dans l'église, on se mettait à chanter des chants du monde? Qu'est-ce que vous me diriez? Des chansons de Mireille Mathieu, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, c'est pas bien, hein? Oui, il n'a pas tout compris, d'accord. Mais vous diriez, mais c'est un blasphème. Oui ou non? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez si Alexandre nous avait fait chanter, je ne sais pas, Étoile de neige? Qu'est-ce que vous auriez dit? Hein? Qu'est-ce que vous auriez dit? Hein? C'est des nouveautés, non? Non, voyez. Mais, écoutez-moi, de chanter des bons chants avec une mauvaise attitude de cœur, c'est pas mieux. Et je vais vous le prouver, bibliquement. Regardez dans Ésaïe 63. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est biblique. Ésaïe 66. Il y a un texte, moi, que je n'ai pas compris pendant longtemps. Et c'est en étudiant la vie de l'esprit que j'ai compris ce que Dieu voulait dire. Regardez, c'est exactement ça. Mais c'est présenté dans le contexte de l'Ancien Testament. Ésaïe 66, verset 3. C'est pareil. Ésaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Voyez, Dieu, lui, il regarde au cœur. Et il faut faire attention que nous ne fassions pas certaines choses sans obéir à Dieu. Car c'est comme, voyez, si nous adorions des idoles, on le voit le dernier, voyez, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Et nous voyons combien il est important de nous appliquer à obéir à Dieu et à ne pas faire les choses n'importe comment. Parce que c'est vrai, on serait choqué de voir quelqu'un prier devant une idole, on serait choqué de chanter des chants du monde dans une église. Mais Dieu est en train de nous expliquer au travers de textes comme celui-ci, et il y en a d'autres encore, que c'est pareil. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut être sérieux. Vous lirez dans Amos également, au chapitre 5, vous verrez. C'est la même chose. Pour Dieu, ce n'est pas les paroles qui comptent. Bien sûr que ça compte. Mais ce qui est important pour Dieu, ce sont les actes. Vraiment, si ça correspond à ce qu'on dit dans notre cœur. Dans Ézéchiel, il le dit, mais mes prophètes, il parle des pasteurs, ils violent ma loi. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. L'attitude de cœur est quelque chose de très important. Dieu regarde au cœur, mais l'attitude intérieure est beaucoup plus importante pour Dieu que les offrandes. Imaginez, dimanche, j'arrive avec un gros chèque pour l'église. Quelqu'un voit la somme. Oh, qu'est-ce qu'il est spirituel. Est-ce que c'est ça la spiritualité? Bien sûr que ça peut l'être, parce que ça peut être vraiment l'offrande joyeuse à Dieu. Mais si j'offre à Dieu une belle offrande, mais que je méprise ça, les autres, que je méprise sa parole, eh bien, ça ne plaît pas à Dieu, du tout. Et je crois que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Vous connaissez Romains chapitre 12, versets 1 à 3. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui vous sera de votre part un culte agréable. » Les gens du monde, est-ce que les gens du monde ont envie d'aller dans les églises? Est-ce que les gens du monde ont envie d'aller dans les églises? Pourquoi? Parce qu'il ne s'y passe rien. Soyons honnêtes. Hein, c'est pas vrai? Mais imaginez que l'Église revienne à Dieu avec la ferveur, l'obéissance, la vie de l'Esprit que Dieu demande. Est-ce que vous croyez que les pécheurs pourraient être intéressés tout à nouveau? S'il se passe certaines choses, moi je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Dimanche après-midi, il y a une jeune femme qui est venue. C'est une rétrograde. Elle est venue, ça fait deux ou trois fois qu'elle vient. Elle a voulu absolument me voir après la réunion. Elle me dit, Monsieur Gros, je ne sais même pas quand j'ai pris le baptême si j'étais converti. Mais voilà, j'ai été convaincu de péché. Il faut que je revienne à Dieu. C'est ça l'évangile. C'est que quand un fils prodigue revient, ils disent, voilà, je veux mettre ma vie en règle avec Dieu. Moi, ça me réjouit, ça, quand j'entends des choses pareilles. Et si nous voulons que Dieu visite l'Église, il faut que nous revenions à cette vie de sainteté, de consécration, à cette vie de l'Esprit. Et c'est à nous. Il faut se réveiller. Ne dites pas, Dieu, réveille-moi, prépare-moi, règne en moi. Mais obéissez, et Dieu régnera, vous inquiétez pas. Soyez fervent d'esprit, et Dieu régnera. C'est une aberration de demander à Dieu de faire des choses que nous, on doit faire. Quand Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, elle devait rouler la pierre. Rouler la pierre. Et si elles n'avaient pas roulé la pierre, elles n'auraient jamais vu la gloire de Dieu. Leur part à elles, ça consistait à rouler la pierre. Votre part, c'est peut-être de revenir fervent. Peut-être que vous n'adorez pas des statues, mais peut-être que vous, tout en adorant Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu. Et la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Je vais vous l'expliquer un de ces dimanches et vous allez voir combien c'est quelque chose de profondément sévère. Ne nous inquiétons pas, si le Seigneur ne nous visite pas comme nous le soupirons, comme nous le voudrions, eh bien laissez-moi vous dire, c'est parce qu'il y a des choses dans notre vie et le diable il fera tout pour que nous n'obéissions pas au Seigneur. Vous vous rappelez quand Balak voulait que maudire le peuple, vous vous rappelez? Et il a fait venir Balaam, et maudit le peuple. Et en plus, il commençait à être intéressé parce qu'il avait proposé de l'argent. Non, je ne peux pas faire ça. Et puis au bout d'un moment, allez, bénis le peuple. Il l'a montré sur un certain âme, maudit le peuple d'Israël. Il dit non, je peux, Dieu ne peut pas maudire celui qui obéit. Ils obéissaient. Vous vous rappelez ? Obéissaient. Et Balak, il était furieux. Et qui c'est qui a eu la bonne idée ? C'est le pasteur qui a eu la bonne idée. La bonne idée, c'est entre guillemets. Et le pasteur, il a dit, roi, parce qu'il était intéressé, il y avait des gros sous derrière. Et il a dit, mais tu sais, la divination ne peut rien contre Israël, parce qu'ils obéissent. Mais tu peux faire quelque chose. Tu envoies des femmes étrangères dans le peuple. Et tu t'arranges que ces femmes couchent avec les Hébreux. Et ça a été gagné. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Ce que la sorcellerie n'a pas pu faire, la débauche l'a fait. Et c'est même rappelé dans l'Apocalypse. Et ce sont des choses qu'il faudra expliquer. Parce que nous, on a l'impression que parce qu'on n'est pas des adorateurs d'idoles, parce qu'on n'est pas des... Vous voyez, parce qu'on ne répand pas certaines choses, mais quand on n'obéit pas, c'est aussi coupable que la sorcellerie. On serait fou si on apprenait qu'il y a des gens qui font de la sorcellerie dans le quartier, là, contre nous. Mais croyez-moi, si on désobéit, si on vit volontairement dans la désobéissance, on contribue également à empêcher la bénédiction de Dieu. Et voulons-nous vraiment la bénédiction de Dieu ? Nous prions pour que Dieu nous parle. Eh bien, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons des pierres vivantes. Si nous voulons voir les pécheurs venir à l'église, si nous voulons voir les fils prodigues revenir à l'église, si nous voulons voir l'exaucement de nos prières, il faut que l'église du Seigneur Jésus soit conforme. L'église, elle doit être composée de pierres vivantes. Vous êtes d'accord avec moi ? Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité de nous sanctifier, que ton nom soit sanctifié. Nous avons la responsabilité de nous consacrer. Et quand je vois des jeunes qui achètent des jeux de vidéos de violence et qui sont malgré tout baptisés, moi je vous dis qu'ils ne sont pas convertis. C'est pas possible. Prouvez-moi que vous êtes convertis et que vous aimez la violence, que vous aimez passer des heures sur un jeu à détruire des hommes. Ils ont prouvé, des psychologues et des psychiatres ont prouvé que souvent certains tueurs ont passé leur adolescence sur des PlayStation à ces jeux-là. Ils l'ont prouvé. Et des chrétiens, eux, s'amuseraient à ces choses ? Vous ne croyez pas mieux qu'ils voudraient mieux combattre le bon combat de la foi dans la prière ? Et nous nous étonnons de ce que Dieu ne confirme pas sa parole. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir une visitation du Saint-Esprit, il faut qu'au préalable, il y ait des repentances, des reconversions. Si nous voulons voir la visitation du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait de l'obéissance. Et ça, chacun d'entre nous, de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Nous voulons voir une église enthousiaste, fervente d'esprit ? Est-ce que vous faites partie de ces gens tout le temps dans cette espèce de misère, comme quelqu'un me disait dernièrement, mais moi je prie pas, je sais pas si je peux prier, je sais pas si je mérite, mais on ne vous a pas demandé si vous méritiez de prier, mais est-ce que Dieu ne mérite-t-il pas que l'on prie ? C'est quoi la question ? Est-ce que moi je peux prier ? Je mérite de prier ? Je peux louer ? J'en sais rien. Mais Dieu ne nous a jamais demandé ça. Dieu nous pose la question, est-ce que lui, il mérite qu'on prie ? Est-ce que lui, il mérite qu'on combatte ? Est-ce que lui, il mérite qu'on se sanctifie ? Oui ou non ? Et c'est ça qu'il faut être sérieux. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Oui, nous voulons des temps de rafraîchissement. Oui, nous voulons des temps de visitation. Mais il faudra d'abord des temps de repentance, des temps d'engagement. Les chrétiens qui ne s'engagent pas avec Dieu, mais ils savent très bien pourquoi. Ils ne le veulent pas. Leur priorité, c'est trop important. Ils ne sont pas passés par la conversion. Et ça, c'est un drame dans les églises. Et c'est notre faute. C'est un drame. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. Ça fait que Dieu n'est jamais un premier. Il n'a jamais été un premier dans leur vie. Mes frères et sœurs, voulons-nous voir des temps de rafraîchissement ? Voulons-nous voir des temps de visitation ? Eh bien, qu'il y ait des temps de transformation d'abord. Seigneur, transforme-moi. Je veux que tu sois en premier dans ma vie. Je vais me débarrasser de ça. Un jeune me disait dernièrement, j'ai tout enlevé. J'avais téléchargé sur mon ordi. J'ai tout enlevé. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça la repentance. Et je crois quand même que le Saint-Esprit peut nous le montrer, non ? Non, quand il y a des jeunes qui disent, ah, mais non, moi je regarde ça. Mon chrétien qui m'a téléphoné il y a quelques années pour me dire, est-ce qu'on peut regarder des films érotiques ? Il non mais, j'ai dit, mais vous rigolez. Moi, je n'ai pas su si c'était une blague sur le coup. Et non, mais vous rendez compte? Est-ce qu'il est converti, ce gars? Franchement, c'est pas possible. Il n'est pas converti. La Bible dit que celui qui se souille, il n'irritera pas le royaume de Dieu. Il faut, vous pouvez demander pardon chaque fois. Celui qui pratique le péché, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Celui qui pratique. Mes frères et sœurs, si le grain de blé, je termine avec cette pensée, ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors qui ce soir, dans son cœur, parce que c'est entre vous et Dieu, qui dans son cœur est en train de dire « Oui, je veux mourir à moi-même. Ma vie, elle ne m'appartiendra plus. Ce n'est plus moi qui déciderai si le samedi j'ai choisi le sport, le resto, la télé, je ferai ta volonté. » C'est comme ça qu'un réveil viendra. Vous pouvez lire l'histoire de tous les réveils, c'est des hommes qui ont dit oui à Dieu, c'est des hommes qui ont dit non au monde, qui ont dit non aux choses de la terre. Ils ont dit oui, je dirai oui, je renoncerai à tout ce qui ne va pas dans ma vie. Voulons-nous une église vivante? Qui voudrait voir Dieu manifester sa puissance? Moi je le veux. Eh bien ça m'engage à obéir. Qui voudrait voir Monsieur Régnier sortir du coma? Est-ce que Dieu peut le faire? On a entendu que Dieu a sorti Lazare de 4 jours de putréfaction. Vous croyez que Dieu peut sortir un homme du coma? Il le fera dans une église qui obéit. Car je le répète, priez pour moi pour que je puisse vous enseigner sur ce sujet. Parce qu'il faut que ça éclaire les gens. Vous entendez? La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Et la résistance est aussi coupable que la divination ou l'idolâtrie. Ça fait réfléchir quand même. Alors fermons les yeux quelques instants, fermons-les et ouvrons notre cœur. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux moins jeunes, je sais qu'il y en a qui viennent vous aimer Dieu. Mais qui vraiment est conscient qu'il doit y avoir un renoncement, de l'abnégation? Il faut que le grain de blé qui tombe meure. Seigneur, je veux mourir, vous avez pris le baptême. Je m'adresse à ceux qui ont pris le baptême. C'est à l'église ce soir. Dimanche dernier, c'était pour tout le monde. Veux-tu être guéri? Dimanche dernier, mardi dernier, ça brassait tout le monde. Ce soir, c'est une prédication pour les croyants. Il y a des prédications, c'est vraiment pour les croyants. Si vous avez pris le baptême, avez-vous décidé un jour de dire « Oui, je veux mourir à moi-même. Ma vie, elle ne m'appartient pas. » Qui veut voir des temps de rafraîchissement? Qui veut chanter? Parce que si vous chantez que ces lieux soient visités par ta sainte présence et que vous ne fassiez même pas votre culte personnel, vous êtes en train de mentir. De mentir, de vous mentir. Et Dieu le sait, et il vous aime, et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu, vous avez vu comment il a parlé du temps de Malachie. Mais vous rendez compte? Mais vous me fatiguez. Vous me fatiguez par vos paroles. Alors qui ce soir dit mon Dieu est de moi? Je ne veux pas être un obstacle dans l'église du Seigneur. Je veux être un instrument de bénédiction. Je veux être une source, un canal de bénédiction. Comme tu as dit Abraham, une source de bénédiction. Est-ce que vous êtes une source de bénédiction ou est-ce que vous êtes dans l'église une source à problème? Il faut arriver à ce niveau. Si on veut vraiment voir la gloire de Dieu, il faut accepter ce que Dieu a dit, comme il a dit du temps de Malachie, du temps d'Ésaïe. On va terminer avec un verset, s'il vous plaît, dans le Proverbe 8. Je voudrais que vous notiez ce texte. Je vous l'ai donné, je crois, mardi dernier. J'ai à cœur de vous le redonner en terminant. C'est pour vous montrer comment les choses se passent. Ce sont des lois spirituelles. Vous ne pouvez pas les changer. Vous savez, il y a des lois, si vous mettez l'eau dans le feu, la main dans le feu, eh bien, elle est brûlée. Si vous la mettez dans l'eau, elle est mouillée. Alors ne souriez pas, parce que c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Il y a des choses, quand vous les faites, Dieu agit. Quand vous ne les faites pas, Dieu n'agit pas. Proverbe chapitre 8, verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme, écoutez bien, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme. Mes frères et sœurs, celui qui chaque jour veille aux portes, celui qui s'approche du trône de la grâce chaque jour et qui en garde l'enseignement, c'est une loi, il obtient la faveur de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni.